ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Oui, il est l'heure de retrouver le coach tout de suite. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Vous allez bien?
Bah écoute, ça va bien, comme d'hab.
Bon, tant mieux, il fait beau, ça fait du bien. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais parler d'un truc que t'aimes bien, gamin.
Ah.
On va reparler de biais cognitifs. Je sais que ça te fait kiffer, ce genre de truc.
Ah, mais je me sens très intelligent quand je parle de biais cognitifs, alors j'aime bien, ouais.
Et puis aujourd'hui, on va se faire un petit biais cognitif qui est quand même filou, à la limite du foireux, hein, et qui risque de nous jouer des tours dans les semaines et les mois à venir.
Très bien.
D'autant plus que des politiques et des journalistes, eux aussi un peu filous à la limite du foireux, en usent et en abusent parfois à outrance. Si tu veux, gamin, c'est le genre de biais cognitif qui te met le doute et qui est très précieux pour insinuer des trucs vaches.
Ah.
Le principe, il est simple, c'est de poser une question qui, par l'effet psychologique du biais d'affirmation, va être retenu comme une affirmation par le cerveau.
Oula, c'est-à-dire?
Pour éclairer mon propos, je m'en vais vous donner un exemple. C'est le genre de question que l'on trouve souvent dans les médias. Je donne deux exemples. Le gouvernement français a-t-il fait pression sur l'entreprise XY? Ou bien la question suivante, le Covid est-il vraiment responsable de l'augmentation de la mortalité en 2020? Alors, vous conviendrez que c'est le genre de phrase, de question que l'on rencontre quotidiennement dans les médias. Mmh. Eh bien, le biais d'affirmation, c'est quand notre cerveau transforme une phrase interrogative en phrase affirmative. C'est quand on entend une question, mais que dans notre caboche, ça se transforme en affirmation. Alors, au départ, je dois t'avouer, gamin, que je pensais que c'était un peu de la faute de nos grands-mères, ce truc-là.
C'est-à-dire?
Tu sais, gamin, quand elle te demande, ta grand-mère, tu veux du poulet et de la purée?
Ah bah, oui, forcément, on n'a pas le droit de dire non.
Même si ça ressemble à une question, bah, c'est pas une question. Oui. Elle t'affirme juste qu'elle va te resservir et qu'il t'est conseillé de faire sauter le bouton de ton pantalon parce qu'elle va te faire exactement le même coup avec la tarte aux pommes façon normande.
C'est vrai.
Mais en réalité, après avoir étudié la question, gamin, je dois avouer et reconnaître que c'est pas la faute de nos mémés.
Bah non, les pauvres.
Eh ben non, il y a deux psychologues, Mario Pandaler et Siegfried De Witt. Ça doit pas être facile à porter comme nom quand même, Siegfried. Hein. Ça fait quand même un peu guerrier teuton comme ça à l'époque. Ça fait wagnérien un peu comme truc. Hein.
C'est vrai.
Donc, ces deux psychologues, hein, Mario Pandaler et Siegfried De Witt, ils ont mené une expérience qui a permis de mettre à jour ce biais d'affirmation. Ils ont distribué des phrases formulées sous forme de questions et sous forme affirmative à des volontaires. Les questions portaient sur des sujets mathématiques et biologiques. Après avoir lu les phrases, dans une deuxième phase, les volontaires devaient répondre à un questionnaire où chacune des phrases était proposée sous les deux formes, c'est-à-dire affirmative et interrogative. Et ils devaient indiquer sous quelle forme ils avaient lu la phrase dans la première partie de l'expérience. Eh bien, la majorité des phrases qui étaient sous forme interrogative ont été perçues comme étant sous forme affirmative dans la seconde partie de l'expérience. Pour ces personnes, la question était devenue une affirmation. Mmh. Alors, nos deux psychologues, là, dont les noms sont trop difficiles à répéter, ils ont trouvé le mécanisme à l'œuvre dans le biais d'affirmation. Et comme je le disais, il n'est pas question d'une mauvaise habitude qu'on aurait pris avec nos mémés. Pour comprendre une question, notre cerveau, il se crée une représentation mentale de cette question. Et par exemple, quand j'entends la question « Le gouvernement a-t-il fait pression sur l'entreprise XY ?», eh bien, j'imagine une scène. Alors, chacun imagine sa propre scène. Hein, mais en gros, on imagine une scène où se matérialise l'action. Tu vois, on imagine, je ne sais pas, moi, un ministre prendre le téléphone et faire pression. Mmh. On imagine des trucs, quoi. Et le fait d'avoir imaginé cette scène, de se l'être représentée, eh bien, ça a pour effet que pour nous, elle devient possible et même réelle. Mmh. Et c'est comme cela qu'une question se transforme en affirmation dans notre caboche. Alors, nos deux amis, ils ont poussé l'expérience un peu plus loin et ils ont montré que le biais d'affirmation est d'autant plus fort que la question est simple. Et oui, c'est compréhensible, il est plus facile de se représenter des choses simples que des choses complexes, de les imaginer en tout cas. Donc plus une question est complexe, plus on a, on va garder ça sous forme de question, on va moins transformer ça en affirmation. Mais plus la question est simple, eh bien plus on va avoir l'impression qu'il s'agit d'une affirmation. Alors ce biais d'affirmation, il faut le connaître pour comprendre comment il peut alimenter les théories du complot. Il faut le reconnaître aussi quand il est utilisé à des fins de manipulation complotiste ou de manipulation politique. On comprend mieux que poser une question, eh bien ça n'est jamais anodin. D'ailleurs, les politiques ont bien connaissance de cela. Parce que lorsqu'ils font face à une question orientée et directe qui pourrait rapidement devenir une affirmation dans l'esprit des gens, ils se montrent généralement en opposition avec la personne qui pose la question. Ainsi, par exemple, un député de la majorité ne peut pas laisser passer une question comme « Emmanuel Macron est-il le président des riches ?» Il sait que dans l'esprit du public, cette question va devenir une affirmation. Macron est le président des riches. Et lorsqu'ils font remarquer à la personne qui interviewe que cette question elle est un peu licencieuse ou que c'est une question qui ressemble à une affirmation, souvent l'intervieweuse ou l'intervieweur répond « Ah, mais moi, je ne fais que poser la question. » Alors moi, je vous invite vraiment à débusquer l'utilisation frauduleuse de ce principe par celles et ceux qui ne font que poser des questions d'une façon très facile et qui finalement ne font rien d'autre que d'affirmer des choses sans en avoir l'air. D'ailleurs, les cellules de vérification, vous savez, il y a de nombreux journaux et médias qui ont des cellules de vérification d'informations, de fact-checking. Alors, il y a les décodex du Monde, le fact-checking sur France Info pour n'en citer que deux. Eh bien, ces cellules de vérification de l'information, ils ont bien compris ce système. Eh bien, souvent, l'accroche de leurs articles n'est jamais la question qu'ils vont aller vérifier. Ils n'écrivent jamais dans leur article « Macron a-t-il vraiment dit qu'il détestait le Beaujolais ?» Ils choisissent une forme affirmative sans équivoque, comme du genre « Non, Macron n'a jamais dit qu'il déteste le Beaujolais. »
Ah oui.
C'est une façon comme ça d'éviter de se tirer une balle dans le pied, parce que quand tu veux décoder l'information et faire du fact-checking, ce serait quand même dommage qu'en posant une question, tu balances une nouvelle affirmation.
Effectivement.
Alors, mes petits poussins, pour conclure, je dirais que poser une question peut être parfois la meilleure façon de lancer une rumeur. Il faut donc se méfier de ce biais d'affirmation et savoir le reconnaître quand il est utilisé à des fins malveillantes.
Merci beaucoup, coach, pour ces conseils. Faut faire attention à tout ce qu'on entend, j'ai l'impression, c'est de plus en plus compliqué.
Alors, il faut pas faire attention à tout, bien sûr, mais il faut avoir en tête que quand on entend des choses, des questions, on a tendance à les transformer en affirmations. Et que c'est parfois ce qui est à l'œuvre dans les mécanismes complotistes ou alors quand on veut insinuer des choses. Ouais. Et c'est bien d'être toujours vigilant pour ne pas se faire avoir, tout simplement, pour garder quelque part un peu... C'est pour organiser son autodéfense intellectuelle.
Très bien. Merci beaucoup, coach. En tout cas, on se dit à très bientôt sur Khaled.
À la semaine prochaine, mes petits pioupiou.
À bientôt, ciao, ciao.
Ensemble sur Khalad.